slash l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet. Présenté par Mel et J.A. un mercredi sur deux sur Radio G.
Mercredi 19h sur Radio G, vous écoutez Pop Flash. Je suis JR et pour ce cinquième épisode, je serai encore une fois votre présentateur accompagné de Mel pour ce cinquième épisode de notre émission bimensuelle. Bah, coucou Mel, comment tu vas?
Coucou, ça va très bien et toi JR?
Bah écoute, ça va très bien, je suis très content de vous retrouver encore une fois pour ce cinquième épisode, mine de rien. Et on va tout de suite commencer avec la chronique Game Pop présentée par Mel. Ensuite, on va continuer tout de suite avec une petite chronique Qu'est-ce qu'on lit ? Et on enchaînera avec une première pause musicale. On continuera encore par une pause musicale pour une petite rubrique Pop and Clap. On continuera avec Lancer les dés. Et si on a encore un peu de temps, on va probablement tout simplement aller répondre soit aux questions, soit faire un petit jeu dans la rubrique Bric-à-Brac. Mais aujourd'hui, c'est pas sûr du tout vu qu'on vous a prévu du très très lourd. Tout de suite, je vous laisse tout de suite avec Mel pour notre première rubrique de la journée, Game Pop. Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Aujourd'hui dans Game Pop, préparez-vous à une chronique un peu spéciale. Pour notre cinquième émission, j'ai décidé d'innover. D'abord, nous allons plonger dans le monde de la Nintendo Switch. Rumeurs, infos officielles et débats enflammés. Ensuite, comme promis, depuis un moment, je vais inaugurer un tout nouveau segment. Ma toute première critique de jeux vidéo dans l'émission. Excitant, non? Alors c'est parti. La Nintendo Switch, que sait-on vraiment? Les infos officielles d'abord. Commençons par les faits confirmés. La console sera rétrocompatible avec certains jeux Switch. Le service Nintendo Switch Online continuera sur cette nouvelle génération. Une présentation officielle est prévue avant mars 2025 et Nintendo a déclaré que la Switch 2 sera une évolution et non une révolution dans la lignée des consoles précédentes comme la DS vers la 3DS ou la Wii vers la Wii U. Voilà ce qu'on sait de sûr. Mais maintenant, place aux rumeurs et là, ça devient intéressant. On décrypte. Deux versions pour la Nintendo Switch. La première rumeur prétend qu'il y aurait deux modèles. Une console sans lecteur de cartouche pour les jeux achetés sur l'eShop, donc en dématérialisé, et une version traditionnelle avec un lecteur de cartouche. Franchement, je trouve cette idée peu crédible, si vous voulez mon avis. Produire deux modèles si différents pourrait coûter cher à Nintendo et créer de la confusion chez les joueurs. Par contre, une version portable comme la Switch Lite, ça serait plus plausible. Okay. Une autre rumeur suggère que la rétrocompatibilité pourrait être limitée à certains titres. Si c'est vrai, cela risque de frustrer de nombreux joueurs, surtout ceux qui ont investi dans de grosses bibliothèques de jeux Switch. Une annonce en janvier 2025. Certains pensent que Nintendo révélera la Switch 2 en janvier pour une sortie en mars. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on aura des nouvelles avant le 31 mars 2025. Alors croisons les doigts pour une annonce début d'année. Le nom mystérieux de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch Once. Voilà, on va faire un peu le débrief. Une rumeur récente prétend que la console pourrait s'appeler donc Nintendo Switch Once. En anglais, Once, peut-être que je le prononce mal, signifie gramme ou particule. Un nom intriguant, est-ce un indice sur une console plus légère ou avec une texture innovante pour les Joy-Con? C'est peut-être des reliefs ou des finitions différentes. En tout cas, j'ai hâte de savoir vos théories là-dessus. Toi, JR, pour l'instant, dans ces rumeurs-là, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense qu'ils vont encore nous la mettre. Mais après, moi, comme d'habitude, je suis aigri et, enfin, avoir deux consoles différentes, une avec, si j'ai bien compris, des cartouches et une dématérialisée, ça m'étonnerait pas. C'est un truc que font pas mal de créateurs, de constructeurs de consoles pour l'instant, pour plus ou moins la mettre profond à tous les joueurs. Faut savoir que le démat, pour l'instant, il y a pas mal de gros débats dessus, mais t'en parles peut-être pas là-dessus, parce que ça fait quelques mois, mais par exemple, aujourd'hui, quand on achète un jeu sur Steam, le jeu ne nous appartient pas vraiment. En fait, on achète en droit d'avoir accès à la licence. Mais par contre, si Steam ferme un jour, on perdra tous nos jeux. Et ça m'étonnerait pas que Nintendo fasse ça. Pour ce qui est de la rétrocompatibilité, bah, j'ai envie de te dire, de toute façon, on nous l'a toujours mis, on continuera à nous la mettre parce que visiblement, on apprécie. Donc, je vois pas pourquoi il serait compatible.
Pardon, je t'ai coupé. Bah, je sais pas parce que regarde, il y a des jeux de Nintendo DS qu'on peut jouer sur la Nintendo 3DS. De très très vieux jeux qu'on peut mettre et qui sont rétrocompatibles.
Après, c'est encore autre chose parce que pour moi, la DS et la 3DS, c'est pas deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas deux consoles différentes, et c'est de l'évolution d'une console.
Et justement, c'est ce que a dit, si je reprends les infos officielles, Nintendo a déclaré que la Switch 2 sera une évolution et non une révolution dans la lignée des. Comme dans la lignée des consoles DS, 3DS, Wii, Wii U. Donc. Voilà, ils veulent pas, Nintendo ne veut pas révolutionner le genre de la Nintendo Switch, etc. Ils veulent juste faire une évolution, une 2.0, quoi.
Ils veulent juste vendre, en fait, des consoles pour les collectionneurs. Encore une fois, pour moi, Nintendo est affreusement en retard d'un point de vue des consoles. Mais écoutez, s'ils sortent une évolution et que, on va dire qu'ils vont sortir encore une fois une très belle version Zelda, par exemple, au hasard, hein, je connais certaines personnes qui, je suis sûr, l'achèteraient.
Comme par exemple la OLED Zelda.
Ouais, exactement. Comme par exemple, est-ce que
on n'est pas visé du tout ici.
Non, pas du tout. On vise personne évidemment. Tout le monde est le pigeon de quelqu'un.
Breaking news, Nintendo en Chine. Avant de conclure ce segment, une info qui fait parler depuis quelques jours, Nintendo va fermer tous ses services en ligne en Chine d'ici mai 2026. Cela inclut le Nintendo eShop, les mises à jour de jeux et même le service online. Heureusement, cela ne concerne pas la France ni la plupart des pays, mais c'est tout de même un coup dur pour les joueurs chinois. Cette décision serait liée à des contextes politiques et non réellement à la Switch 2. Donc, pas de panique, mais c'est toujours triste pour une communauté de perdre l'accès à une plateforme. Donc, je trouve ça un peu dommage pour eux.
On en sait un peu plus pourquoi ou c'est juste.
On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que déjà la Nintendo Switch en Chine, par exemple, la première est sortie qu'en 2020.
Ouais, donc en fait, ils l'ont sorti beaucoup plus tard.
Et puis c'était une collab avec le géant de l'industrie, de la technologie en Chine, quelque chose comme ça. Donc c'est très 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 compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui ont paniqué parce qu'ils se disaient que du coup, si ça allait fermer en Chine, ça allait fermer ailleurs. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Donc voilà.
Purement des raisons qui sont, à mon avis, ça va être des raisons politiques. Oui. Mais on ne va pas balancer des fake news sur Popflash.
Voilà. On ne sait pas si c'est politique ou autre, mais c'est pas un truc lié. C'est pas décisionnaire de Nintendo réellement. Et en plus de ça, c'est quelque chose de, comment expliquer, de compliqué parce qu'en Chine, ils ont pas la même façon de consommer le jeu vidéo que nous. Donc, peut-être qu'en fait, ils veulent juste tout fermer et se dire, en 2025, il y a la Switch 2 qui sort ou la Switch One, je sais pas trop comment ils vont l'appeler. Mais, vu que ça sort, on abandonne la première et puis on mise tout sur la dernière, quoi.
Je vois ce que tu veux dire et ouais, en vrai, c'est possible parce qu'en plus, Internet en Chine, si je me trompe pas, c'est assez compliqué vu que c'est pas vraiment le même web que chez nous. Donc, ça pourrait être une explication. Est-ce que c'est la fin des news?
Oui, c'est la fin des news de Nintendo Switch et maintenant on va passer à la critique d'un petit jeu vidéo. Vous allez voir, c'est assez cool. Et si les Sims 4 avaient un concurrent? Imaginez un jeu de simulation de vie au graphisme réaliste avec des milliers d'options de personnalisation et des choix de vie immersifs, le tout en ultra haute définition. Ce jeu, c'est InZOI ou en tout cas la promesse ambitieuse faite par son développeur Krafton. Pour les curieux et fans de simulation de vie, InZOI a déjà commencé à faire parler de lui grâce à une bêta lancée il y a quelques mois, accessible à tous les joueurs ou presque. Cette bêta ne proposait qu'un aperçu limité, le créateur de personnages. Cependant, quelques chanceux comme les influenceurs NS, Lucas et Pixia ont eu accès à une version plus avancée du jeu. Bien sûr, en tant que grand fan de Sims 4, j'ai sauté sur l'occasion de tester cette bêta et je dois dire que je suis bluffée. Le créateur de personnages, bien que limité pour l'instant, est déjà impressionnant. La personnalisation est incroyablement poussée, permettant de créer des personnages uniques dans le moindre détail. Pour quelqu'un comme moi qui adore imaginer des histoires à travers ces personnages, c'est un véritable terrain de jeu créatif. J'ai passé des heures à tester les différentes options et même si quelques ajustements sont encore nécessaires, certaines couleurs de cheveux ne sont pas bien calibrées par exemple et les options pour les corps plus size, curvy ou un peu plus gros sont presque inexistantes et cela reste dommage même si ça reste une expérience prometteuse. Un autre point qui m'a séduite, ce sont les traits de personnalité originaux. Ces traits influenceront directement le comportement des personnages dans le jeu. Par exemple, un personnage militant pourra aller manifester pour défendre sa cause. Ce type de mécanique promet une immersion encore jamais vue dans un jeu de simulation de vie. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Comme il s'agissait d'une bêta, on attend encore des améliorations et des ajouts pour la version finale. Mais une chose est sûre, Inzoi a du potentiel et pourrait révolutionner le genre de la simulation de vie. Le jeu est prévu en accès anticipé pour le 28 mars 2025 et on ignore encore le prix exact mais il est fort probable qu'il soit payant. En tout cas pour ma part, je suis impatiente de plonger dans ce monde et de voir si Inzoi tiendra ses promesses. Et vous, est-ce que ça vous tente de découvrir Inzoi et d'explorer de nouveaux types de simulations de vie? Je sais que toi par exemple, Gérard, tu n'aimes pas trop les Sims 4, même tu détestes ce jeu, je crois.
Alors je déteste les Sims 4, je prends juste de plaisir à tuer mes familles, mais ça c'est
super.
Ça c'est autre chose. Et pour Inzoi, alors c'est la première fois que je vais le dire, mais franchement, je m'en fous.
Ah ouais, ça t'intéresse pas du tout.
Non, vraiment, non, pas. Voilà. Ça,
ouais,
je comprends qu'on apprécie, hein, mais juste moi je. Voilà, ça me passe à côté, on va dire.
Ouais, c'est pas ta cam. Moi non trop. C'est fini pour Game Pop, pour cette 5e émission. Je laisse la parole à JR et je rappelle que vous êtes sur Radio G 101.5 FM et en DAB+, et vous écoutez Pop Flash.
Eh bien, Mel a fait le rappel radio que je m'apprêtais à faire. On se retrouve tout de suite, du coup, pour la deuxième chronique de cette émission. On se retrouve tout de suite pour la chronique Qu'est-ce qu'on lit ? À tout à l'heure.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Alors, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous présenter deux œuvres. On va commencer par un manga qui, à mon avis, n'est pas très connu, mais qui était diablement agréable. Et ensuite, je vais vous proposer tout simplement la lecture d'une BD franco-belge qui est un peu plus classique, mais qui est tout de même très bien aussi, tout simplement. J'en avais déjà fait la critique il y a quelques mois sur mon compte Instagram pour les plus fidèles d'entre vous, mais je vais la refaire du coup à l'oral parce que plus c'est bon, tout simplement. Et on va tout de suite commencer par du coup Tokyo ces jours-ci, édité chez Kana et écrit par Taiyo Matsumoto. C'est un auteur qui est connu pour beaucoup de ses mangas. Il en a écrit plein, il a écrit beaucoup de très bons mangas, mais il est connu notamment pour Gogo Monster, Ping Pong et Le Chant du Louvre. Créé. Ce jour-là, Shizuka, éditeur de manga, a démissionné de son poste pour des raisons personnelles. 30 ans dans le monde de l'édition, ça marque, mais cet homme qui vit seul avec un petit appartement loin de l'agitation de Tokyo et qui parle avec son Mono Java ne parvient pas à laisser le manga. Le voilà qui part retrouver les dessinateurs dont il s'est occupé lors de son passé. Est-ce que j'ai aimé ? Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un manga qui était très calme, très agréable, assez poétique, mine de rien, avec un style de dessin qui était assez particulier, mais qui tout de même, même si au début, on va dire, comme d'habitude, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, c'est un style de dessin particulier, mais on s'y fait, et en fait, ça sert le propos. J'ai pas envie de dire que c'est un style de dessin qui est simple, parce que je ne pense pas qu'il soit simple. En fait, il donne cette apparence de simple sans vraiment l'être. Il y a beaucoup de détails, ne serait-ce que dans les personnages, dans leur caractérisation. Et je crois que son plus gros point fort, ça reste sa narration. Les personnages sont humains, les personnages sont pas spécialement doux, mais aucun personnage n'est parfait et on suit tout simplement l'épopée d'un cinquantenaire qui quitte le monde de l'édition japonaise et qui essaye de se détacher de ça pour des raisons personnelles qu'il ne développe pas vraiment. On peut supposer que c'est parce qu'il a essayé de lancer un nouveau magazine et que ce magazine a raté, mais c'est jamais vraiment confirmé dans le manga. Et on va suivre du coup ses pensées, on va suivre les pensées des différents dessinateurs qu'il a eu. Tous les dessinateurs sont différents et même si peut-être que c'est encore moi qui fais mon prof de français de regarder le rideau est bleu et ça veut dire que j'arrête ma blague là parce que sinon ça va être annulé, Bah, j'ai l'impression de voir une critique, pas acerbe, mais une critique assez douce du monde de l'édition japonaise, qui est un monde qui n'a... Bah, qui est sans pitié. Une des phrases qui m'a particulièrement marqué, c'est en discussion entre lui et un des dessinateurs, dont j'ai oublié le nom parce que tous les noms sont assez compliqués, pour moi en tout cas qui suis européen, mais il lui dit ça fait quelques temps que je relis vos mangas et que j'ai l'impression que vous avez perdu votre flamme. Vos mangas sont encore très bien, hein, mais j'ai plus cette impression que vous prenez plaisir à dessiner, tout simplement. Ce à quoi, évidemment, le dessinateur répond de manière agressive parce qu'on vient de lui dire que son manga a baissé de qualité. Et il va partir et on va voir du coup ce qu'il pense. Et évidemment qu'il se rend compte que lui ne prend plus de plaisir. Mais déjà, de un, le manga a bouffé toute sa vie. C'est un père de famille qui a perdu ses enfants, enfin après qui a perdu ses enfants dans un sens pas mort, mais qui a dû se séparer de sa femme, tout ça, et qui en fait s'adapte pour survivre dans ce milieu qui est sans pitié, encore une fois. C'est un manga que je vous recommande. Du coup, c'est en grand format Kana. Il coûte 12€ tout de même. Il est très facile à lire, je trouve. Et sinon, vous pouvez le retrouver à la Fnac, au Repère des Héros, ou comme moi, à Azumanga. C'était un conseil du vendeur d'Azumanga et je l'en remercie parce que je pense que, me connaissant, j'aurais vu le manga, je me serais dit peut-être, et puis je serais parti vers autre chose. Donc, gros big up à ce vendeur. Est-ce que ça t'a donné envie de le voir, Mel?
Oui, ça m'a donné envie de le lire. J'ai pas eu le temps de le lire encore, mais de le lire. Mais ça me donne grave envie. Et puis, tu sais que moi, j'aime bien lire les trucs un peu de société. Donc, ça m'intéresse.
Et il faut savoir que oui, en effet, je l'ai acheté avant-hier, pour être franc. Lu 3 fois, je pense, pour faire cette chronique. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Encore une fois, c'est chez Kana. Et pour une fois, tout le monde peut le lire. Deuxième œuvre de l'émission, New Hope, écrit par Sese Miya, qui est connu pour Au-delà des étoiles, Génération Z, La Brigade du Souvenir, et colorisé par Jairo, qui est visiblement, c'est son premier livre et seul livre pour l'instant. On va suivre du coup l'histoire d'Isabelle, une jeune adulte qui va faire tout pour sauver son frère qui est malade. Pour cela, elle va rentrer dans une fraternité assez louche qui pourrait offrir une place à son frère pour un traitement assez rare. C'est un résumé qui est assez rapide et assez concis parce que j'ai vraiment essayé de pas vous spoiler parce que c'est une espèce de thriller assez agréable. Mais encore une fois, est-ce que j'ai aimé? Oui, j'ai aimé. Encore une fois, je trouve les personnages particulièrement bien écrits. C'est des personnages qui sont attachants, même s'il y a certaines personnes que je trouve particulièrement détestables, notamment la mère de Isa, qui est pour moi une grosse connasse. Voilà. C'est dit, c'est un personnage qui ne s'occupe pas de sa fille, qui passe complètement son frère au-dessus de sa fille sous prétexte qu'il est malade. Au cours de ce comics, trigger warning, on va pouvoir voir l'héroïne se faire rabaisser par sa mère, la faire culpabiliser parce que tu comprends, ton frère est malade, pourquoi tu n'es pas là? Ou encore une fois, ton frère est malade, tu devrais être là, et arrête de râler, ton frère est malade, c'est lui qui devrait passer en premier. Ce sont des choses qui sont assez réalistes et qui, je pense, sont agréables du coup de voir dans le monde de la BD, tout simplement. Et je pense que c'est intéressant en fait de voir ça dans le monde de la BD, surtout que l'héroïne n'arrive pas en fait à poser ses limites pour vous dire, au point où elle va quand même se faire passer pour son frère pour essayer d'avoir ça. Elle va se passer pour un homme et, mis à part la mère qui est une connasse, personnellement, tous les personnages sont plutôt attachants. Bon, le frère est un peu égocentrique, mais on lui pardonne parce qu'il est malade. Et l'héroïne est toute pipou, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à sa famille, peut-être un peu trop. Et tous les personnages à côté d'elle vont doucement la voir peut-être tomber au fin fond de l'enfer, peut-être, on ne sait pas. Vous devez lire pour le voir. Mais encore une fois, je vous le recommande. Autre chose qui est bien, même si c'est un peu plus basique, je dirais tout simplement que c'est les dessins. Les dessins me font vachement penser aux BD Spirou et Fantasio, plutôt récentes. Pas les plus récentes où ils dessinent certaines ethnies de manière assez particulière, mais celles d'avant. C'est des beaux dessins, c'est toujours agréable de voir ça. Donc, encore une fois, New Hope, écrit par Sese Miya et colorisé et dessiné par J-Lo. C'est disponible, si je ne me trompe pas, chez Dupuis. Et voilà, c'était le premier tome. Il n'est pas très cher de mémoire, je crois qu'il m'avait coûté 17 euros. C'est une très bonne amorce pour tout le reste. Et puis après, ah oui, petite chose. J'ai certains personnages qui sont déjà mes personnages préférés, vous l'aurez compris. Et voilà, c'était une très très bonne amorce pour le début d'une série. J'espère juste que ça ne va pas tomber dans certains travers ou dans certains clichés. Est-ce que Mel, ça t'a donné envie ?
Oui, ça m'a donné grave envie. En plus, on l'a dans notre bibliothèque depuis un petit moment. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je le lise. Mais j'ai plein de livres dans ma pile à lire. Mais je pense que je vais le mettre un peu plus haut dans ma pile à lire. Et comme ça, je le lirai plus rapidement.
Et je dirais peut-être que... Ah si, je rajouterais peut-être un dernier petit bémol. C'est que peut-être que les... disons que les enjeux en dehors de ce que veut faire l'héroïne sont peut-être un peu petits, mais ça, encore une fois, c'est en détail. C'est dispo à la FNAC, c'est dispo à Contact, et sinon, vous pouvez aussi le trouver chez moi, parce que, aussi, encore une fois, c'était une recommandation, mais cette fois-ci, il y a longtemps, peut-être il y a un an, dans Vendeur de chez Le Repère des Héros. C'est tout pour cette chronique Qu'est-ce qu'on lit ? On se retrouve juste après, plutôt, je veux dire. La musique qui est du coup The Line que vous avez pu découvrir dans la série Arcane, c'est chanté par 21 Pilot. À tout à l'heure.
À tout de suite.
My body's on the line now. I can't fight this time now. I can feel the light shine on my face. Did I disappoint you? Will they still let me over if I cross the line? Take a seat, but I'd rather you not be here for what could be my final form. Stay your pretty eyes on course. Keep the memories of who I was before. So stay with me, because my body's on the line now. I can't fight this time now. I can feel the light shine on my face. Did I disappoint you? Will they still let me over if I cross the line? Honestly, I thought I was fully prepared for the threshold in store. Stay your pretty eyes on course. I guess I never really faced my fears before. So stay with me, because my body's on the line.
Flash sur Radio G 100.5 FM, radio disponible aussi en DAB+. Et on se retrouve juste après la petite amorce de Pop and Clap. À tout à l'heure. Action, émotion et un peu de popcorn, bienvenue dans Pop and Clap.
Dans Pop un Clap aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur une seule série car c'est un sacré morceau. Bon, et attention, on va lancer l'alerte spoiler. Samedi 23 novembre fut le clap de fin pour la série d'animation Arcane. Créée par le studio de production français Fortiche, Arcane est une série donc d'animation ayant deux saisons chacune avec 9 épisodes. Chaque saison est narrativement construite par des arcs ou des actes si vous préférez. Trois épisodes construisent donc un seul acte, jusqu'à l'acte final. La série est inspirée d'un jeu vidéo très connu, League of Legends, puisque cela se base sur l'histoire de plusieurs personnages du jeu ainsi que de l'histoire du jeu. Mais parlons d'abord du résumé. Piltover et Zone, deux villes dans une seule et même cité, sont diamétralement opposées. Piltover, la partie supérieure, est riche, paisible et les habitants sont en bonne santé. Zone, la partie inférieure et souterraine de la cité, est crade, mal famée, les habitants sont pauvres et pour certains, malades. Nous suivons l'histoire de plusieurs personnages, Vi et Powder, deux sœurs orphelines venant de Zone. À Piltover, nous suivons deux scientifiques, Jace et Victor, qui font la découverte de leur vie, une nouvelle technologie puissante et magique qui révolutionne le monde. Mais le destin liera à jamais ces personnages et bien d'autres quand les deux sœurs cambriolent la chambre des scientifiques et que ça explose. Entre lutte des classes, magie, conflits politiques, baston et relations humaines complexes, Arcane est un feu d'artifice d'émotions jusqu'au bouquet final. Et ça, c'est un résumé très bancal car cette série ne peut être simplement résumée. Il faut la regarder pour comprendre. Et maintenant, notre avis avec JR, sur cette série. Banger, un poulet comme disent les jeunes sur TikTok. Non, vraiment.
Les jeunes.
Ouais, c'est ça. Non, vraiment, cette série est la meilleure série d'animation que je n'ai jamais vue de ma vie. Il y a tout ce que j'aime dans une série. Une intrigue, des relations humaines belles et complexes, des réflexions autour de la société, des esthétiques magnifiques et surtout des personnages féminins bien écrits. Merci à Amanda Overton pour avoir écrit une série aussi bien et des personnages féminins aussi bonnes. La saison 2 est donc terminée et il n'y aura pas de suite. Et honnêtement, je m'en remets toujours pas de cette fin. J'ai pleuré de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 9 de la saison 2. Là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. D'ailleurs, je ne m'en remets toujours pas de cette fin. On remet une alerte spoiler parce que ça va partir d'ici. Parce qu'à partir d'ici, ça va spoiler. Attention, JR. Est-ce qu'on peut parler de Caitlyn ? Je suis passée par toutes les émotions avec elle, de la peine, de la haine, de la compréhension, de l'incompréhension et même finalement j'ai fini par l'apprécier au final à la fin. Un avis sur Caitlyn ?
C'est une connasse.
Super.
Enfin, non, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Disons que c'est un personnage qui a toutes les raisons d'être une connasse et qui devient une connasse pendant une partie de la série pour ensuite avoir un arc de rédemption que je trouve personnellement un peu rushé, mais ça n'enlève rien dû au plaisir dans le cadre de la série.
Ensuite, on va parler de Vi. J'ai juste un truc à dire. Vi, je l'aime d'amour. C'est le personnage qui, tout au long de la série, a su s'accrocher à ses principes. Même si elle fait des erreurs, elle fait tout pour se rattraper. La trahison qu'elle subit de la part de Caitlyn est aussi douloureux pour elle que pour moi, je pense, parce que je suis très sensible. Dans la saison 2, j'ai détesté Caitlyn juste pour ça. Vi est une femme forte, mais aussi pleine de douceur et de complexité et de valeur. Et c'est pour ça que vraiment, Vi à jamais dans mon cœur. Vraiment, crush ultime.
Après, là, tu parles de Vi, tu parles de Caitlyn. C'est quand tu parles de My Boy Echo et de Jinx.
Ça va venir. Attends. Ambessa fait partie des personnages méchants que j'adore détester. J'aime d'amour les personnages comme ça. J'avais adoré Silco dans la saison 1, mais Ambessa, c'est encore plus fort. C'est un peu comme Cersei Lannister dans Game of Thrones. C'est une femme forte, mais qui n'a aucun scrupule à manipuler et tuer pour ses intérêts. Et un de ses intérêts, c'est sa fille Mel. Parlons de Mel aussi. Mel, la goth aussi. Vraiment, genre Mel, perso féminin, trop bien. Qu'est-ce qu'elle est stylée, mais à la fin, c'est un autre niveau. Toi, Ambessa, Mel, t'en penses quoi, JR ?
Ambessa, moi j'aime beaucoup Ambessa, j'aime bien les méchants, tu le sais, j'aime les méchants d'amour. Et je trouve qu'Ambessa est une très bonne méchante, encore une fois ce n'est pas une méchante manichéenne, et merci de ne pas faire une méchante manichéenne dans l'univers de Runeterra, étant donné que tout est gris dans cet univers. Je suppose que tu vas en parler aussi, mais autre méchant que personnellement j'ai beaucoup aimé, c'est Singed.
Ouais, Singed, le scientifique fou, je l'ai bien aimé, mais on n'en sait pas encore assez sur lui pour que je l'apprécie vraiment, en fait. Et je pense qu'on va
faire des dingueries.
Ouais, je pense que on va en parler dans les théories, mais je pense que Singed, on n'a pas fini de le voir. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, maintenant, parlons des quatre autres personnages où mon âme est encore meurtrie. Jace et Victor, je m'en remets pas. Voilà, c'est dit, j'ai d'abord détesté Jace pour ce qu'il a fait dans la saison 2 à Victor, puis ensuite j'ai pas aimé ce qu'a fait Victor, puis ensuite j'étais en mode, je vous pardonne les bébous parce que je les aime trop. Victor, je l'aime depuis la saison 1, épisode 1 ou 2, dès qu'on le voit je l'aime d'amour, ce personnage. Voilà, je suis juste, j'en perds mes mots. En vrai, je n'arrive pas à détester ni Jace ni Victor, même si à cause de Victor, et pas qu'à cause de lui, mais en grande partie, Vander ne deviendra finalement plus qu'une bête déchaînée, avec cette scène déchirante où la chanson Remember Me se lance avec tous ses souvenirs qui partent en fumée. Est-ce que j'ai envie de pleurer rien que d'y repenser? La réponse est oui. Et puis enfin, parlons de Echo et Jinx. C'est simple. Echo, c'est le véritable héros de Arcane.
Boy.
Ah ouais, non mais vraiment, big up à Echo. C'est lui qui perd le peu de choses qu'il avait. Et quand il trouve dans l'épisode 7 absolument tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il désirait depuis toujours, il se sacrifie. Et vraiment, la scène de danse et tout, je m'en remets pas. D'ailleurs, fun fact, est-ce que... et c'est pour ça que Fortish, ils ont fait fort. La scène de danse... Oh. là, on peut même dire qu'ils sont fortiches. La scène de danse critiquée par certains car elle est au ralenti est en fait un hommage à Echo, vu que ce sont des images qui passent en 4 secondes. Et pourquoi 4 images par seconde. Oui. Et pourquoi? Parce que Echo a le pouvoir de remonter 4 secondes en arrière. Et de plus, Heimerdinger lui a dit de profiter de chaque seconde qu'il a dans la vie. Voilà pourquoi la scène est au ralenti. Donc, Echo, on l'adore. Je pense que JR, toi aussi, t'adores Echo.
Moi, je pense que c'est le meilleur personnage de la série. Mais encore une fois, oui, je l'apprécie. Mais personnellement, je pense que tous les personnages, que ce soit masculin ou féminin, sont extrêmement bien écrits.
Ouais.
Et même les personnages secondaires, il y en a certains, je sais que... Est-ce qu'on va parler de la grosse pute de Maddie?
Non.
Ça, Maddie est une... Chouin.
Oui, je suis d'accord. Maddie est une grosse chouin. Vraiment, la dernière scène où elle est et que...
Oh, sa mort, oui.
Ouais, vraiment, la mort de Maddie, c'est bien fait pour elle. Voilà. Maddie, par exemple, est un méchant. Enfin, une méchante vraiment bancale. Enfin, vraiment nulle, quoi. J'ai pas aimé Maddie.
C'est une pioute.
Voilà. Et puis, Jinx, ce personnage si complexe, si triste et dérangé à la fois, elle dégage quelque chose d'attachant et de doux. Et surtout quand elle est avec Isha. Jinx, c'est vraiment ce personnage à la moralité grise qui est dérangé et qui est à la fois mignon et attachant et à la fois tu te dis putain elle fait peur quand même et tu te dis ah ouais ce qu'elle a fait c'est mal mais en même temps t'es là je te pardonne tout ça va aller t'as envie de la câliner et de guérir alors, son inner child
ça dépend parce que en vrai Jane ce qu'elle a fait c'est en effet atroce mais encore une fois c'est un peu le visage de c'est un peu le visage de on va dire, c'est le pur produit de son environnement. On voit bien que Jinx n'est pas en fait une fatalité, car il suffit que Vi meure, c'est con, hein, et pour qu'elle tourne bien. Donc non, personnellement, c'est pas une Jinx est une anti-héroïne. Et d'ailleurs, on va y venir. Hein, mais même si j'ai envie de croire à la théorie comme quoi elle a survécu, c'est éclaté au sol.
On en parle juste après.
Ok.
En fait, Enfin bref, on s'arrête là pour la série en elle-même, mais la fin pose beaucoup de questions et de débats. Et on va donc parler théorie et suite pour l'histoire, parce que oui, Arcane, c'est fini, mais Fortiche travaille sur, il me semble, 3 autres histoires en lien avec l'histoire de League of Legends, et donc forcément en lien avec Arcane. Donc on va pouvoir théoriser sur la suite. Qu'est-ce que toi t'en penses, JR, déjà de la fin?
C'est à ce moment-là que je peux briller?
Tu peux briller, oui.
Ah oui, putain, parce que je suis quelqu'un de brillant. Non, qu'est-ce que je pense de la fin? Je pense qu'elle a ses défauts, mais qu'elle reste très très bien. C'est une très très bonne amorce pour les prochains, pour les prochaines séries, du coup, dans l'univers d'Arcane. Je pense que j'en ai parlé avec certains amis, et en effet, plutôt que juste l'appeler Arcane, ils auraient dû l'appeler League of Legends 2. Arcane. Comme ça, ça aurait pas fait, en fait, plusieurs petites séries. Ça aurait fait un grand univers avec plusieurs séries. Si tu veux que je te parle de, si tu m'autorises à parler de lore League of Legends, moi j'ai plusieurs théories. Et là il y aura pas de spoilers, ce sera juste je déballe des trucs et tu me dis ce que t'en penses, comme tu préfères.
Oui, alors déjà, du coup on en a parlé un petit peu, la théorie comme quoi Jinx en fait elle est pas morte. T'en penses quoi de cette théorie du coup? T'es pas fan de cette théorie toi?
Je dirais qu'elle a une possibilité d'être vraie de 7/10. En vrai, c'est assez haut, hein.
Ouais.
Mais le truc, c'est que je trouve que ce serait un peu con que personne ne meure. Enfin, pas si des gens sont morts. Mais là, après, on pourrait dire que tout ça. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose que j'aime pas de. On l'a pas vue morte, du coup, elle est pas morte. Et surtout, si elle est pas morte, ça pourrait être pour des raisons purement commerciales, parce que c'est une putain d'icône pour LOL, pour Riot. Mais on la reverra plus. Même si elle est vivante. Tous les fans de Jinx, vous ne reverrez pas Jinx. C'est fini. Et vous pouvez pleurer. Prenez votre comment on appelle ça encore?
Je vais prendre mes mouchoirs.
Comment on appelle ça encore? Votre fuck pillow, c'est ça? Tu sais, les coussins grandeur nature.
Ah,
si
oui,
vous voulez revoir Jinx, mais c'est juste là que vous la reverrez. Ou alors jouez à LOL. C'est pas vrai, faites pas ça. C'est pas
ne jouez pas à LOL. Ne jouez pas à LOL. Ah oui, alors petite mention spéciale. Ne jouez pas à LOL si vous pensez que vous allez retrouver du Arcane dans LOL. Non. C'est un univers inspiré, c'est comme on appelle ça, un univers étendu, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais ce n'est pas pareil, c'est très différent. Et c'est pour ça aussi que Fortiche, on fait très très fort, encore une fois, c'est vraiment le nom de leur production. Mais en fait, ils ont tellement créé quelque chose, c'est un truc tellement précieux.
Maintenant, c'est devenu l'or, tout simplement, qui est qu'elle. Plusieurs théories possibles. Il faut savoir que, du coup, l'univers de Runeterra est séparé en plusieurs régions. Celle qu'on a vue, c'est Piltover et Zone, du coup, que je ne vais pas vous représenter parce que vous avez probablement vu la série si vous êtes encore là. Et ensuite, il y a Demacia, il y a Noxus, il y a Shurima, il y a Ixchlan, il y a Ionia, et il y a le Freljord, et il y a les îles maudites. Et ensuite, il y a toute une partie du monde qu'on ne connaît pas encore, qu'on appelle notamment Kamavor. Je vais vous présenter tout ça rapidement avec le temps qu'il me reste. Mais en gros, si on doit faire ça très très simple. Le Freljord, ce sont des plaines gelées avec des vikings. Le Demacia, c'est un royaume qui déteste la magie et qui est notamment construit avec des pierres qui absorbent la magie. C'est là qu'on peut retrouver notamment, Jarvan 4, dont on a vu la pièce dans Arcane saison 2. Noxus, que on connaît un peu, qui est du coup un empire qui est belliqueux et qui est extrêmement expansionniste, d'où vient Ambessa et Mel. Ionia, qui sont des contrées inspirées du coup de l'univers asiatique et notamment du Japon, où on va retrouver beaucoup de spiritualité et notamment tout ce qui est Vastaya, comme l'envoyé de Mel notamment. Les îles obscures, anciennement îles bénies, qui sont des îles qui ont été corrompues par la magie et qui maintenant toute personne qui y va voit son âme se faire arracher de son corps et errer pour de bon. Dans les plus grands champions qu'il y a là-bas, il y a notamment Thresh et Viego, qui est le roi déchu. Je réfléchis, il ne manque plus que Shurima et Ixchlan. Et bien, du coup, Shurima, c'est une contrée qui, à mon avis, a été inspirée de tout ce qui va être de tout ce qui va être en fait culture maghrébine et culture africaine. notamment avec, pour moi, il y a un gros truc avec la culture égyptienne, notamment avec tout ce qui est Asie. Mais ça, on en parlera plus tard. Et enfin, plus tard, on en parlera une autre fois si vous voulez. Et enfin, Ixchel, qui est un petit territoire qui est renfermé sur lui-même, qui est dans le coup dans une forêt tropicale inspirée, si je ne me trompe pas, des cultures aborigènes. Pour ce qui est de ma théorie, et je pense que Mel, tu vas me dire si oui ou non tu es d'accord, c'est que la prochaine série sera probablement sur Noxus, et notamment sur un événement très très important dans le lore de League of Legends, la tentative d'invasion de Ionia. La tentative d'invasion d'Ionia, c'est du coup une guerre que Noxus a lancée. Je ne dirai pas comment elle s'est terminée, parce que ce sera peut-être le titre de la série, mais elle a énormément de poids dans le lore, pour un truc que là, par contre, c'est pas du spoil parce que c'est déjà écrit, parce que ça va être après ce moment-là que Jericho Swain, le GOAT, prendra le pouvoir et mettra en place la Trifari. Et pour moi, ce sera sur ça. Puis après, je verrai bien Demacia Freljord pour tout simplement présenter les personnages là-bas. Je sais pas quoi faire comme histoire là-bas, mais il y a plein d'histoires qui peuvent être très très cool. Et enfin, je verrais bien une série sur Shurama et sur le néant, parce que ça, ce serait tout simplement grotesque.
Ouais, c'est sûr, pour moi, c'est sûr qu'ils travaillent sur Noxus. Voilà, ça sera peut-être pas la suite directe de Arcane, mais.
C'est parti.
Donc oui, effectivement, moi je pense que la prochaine série ce sera sur Noxus. Je pense qu'on reverra pas tous les personnages. Je pense qu'on reverra Mel.
Mel, c'est sûr qu'on la voit.
Parce que je pense que Mel va reprendre le pouvoir au niveau de Noxus, notamment si vous avez vu qu'à Noxus il y a trois pouvoirs avec le renard et tout ça.
C'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est encore l'empereur. C'est après, mais en fait, les trois gros principes fondateurs de Noxus, c'est les trois piliers de la puissance dévoilée. Je te coupe, c'est juste que.
Non.
Niveau lore. Oui,
tu connais mieux plus que moi.
C'est qu'en gros, oui, c'est Vision, Force et Malice et Russe. Pour l'instant, on connaît qui sont là. La Force, c'est Darius. La Vision, c'est Swain. Mais continue, je ne te coupe plus.
Voilà. Et la ruse, c'est pour moi, c'est clairement Mel qui a été très rusée dans le dernier épisode. On ne va pas se mentir. Et puis en plus, sa mère qui lui dit, en fait, t'es un renard ou t'es un loup.
T'es un loup à la fin.
T'es un loup. Et donc, voilà. Et puis en plus, on voit Swain. Parce qu'en fait, le corbeau, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec l'univers de League of Legends, le corbeau qu'on voit avec les trois yeux à la fin, en fait, c'est Swain, ou en tout cas, c'est un de ses corbeaux.
Alors, petite rectification, parce que ça, j'ai vu ça sur les réseaux, parce que moi aussi, c'est moi qui t'avais dit, je crois que c'était ça. Mais en fait, ce n'est pas encore Swain, c'est le démon qui va fusionner avec Swain, mais ce n'est pas encore Swain.
Ah, d'accord.
Parce que Swain pactise avec ce démon après qu'il se fasse couper le bras par une personne à Ionia. Et qu'après, du coup, ils prennent le pouvoir, tout ça.
D'accord.
Ben voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas?
Ben non, c'est tout. Je pense qu'on a fini pour ça. La conclusion, regardez Arcane. Je vous jure que ça vaut le coup. Et puis.
Et Vimpo, je te vois à dire que c'est éclaté. Sache que la prochaine fois que tu dis ça, t'es banni du Discord, voilà. Non, plus sérieusement, regardez Arcane. En vrai, c'est vraiment une très très bonne série. Je comprends que certaines personnes n'aiment pas ou n'accrochent pas, mais c'est la fin de Pop and Clap et on se retrouve tout de suite pour To Ash and Blood, de la série Arcane, qui a été fait par Woodkid. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
And it will change you. Why would you let this voice set in your head? It is meant to destroy you. You summon storms, you play with nature. Now watch it hurt you. You want to shape the world in your hands. You will never make it through.
and love.
Retour, vous écoutez Radio G 101.5 FM de radio disponible en DAB+. Il y a eu un petit souci avec la musique, hein, on l'a entendu. Et on se retrouve tout de suite du coup pour lancer les dés. Je lance l'amorce et on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure.
La chronique JDR lance les dés. Avec JR.
Donc, lancer les dés aujourd'hui. De quoi on va parler dans lancer les dés ? J'ai pris l'habitude de vous présenter des univers en particulier, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient un peu plus à cœur que différents univers. On continuera à vous en présenter, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, pour une première fois, des univers homebrew ou des univers maison. Qu'est-ce que c'est déjà des univers homebrew ou des univers maison ? Ce sont des univers qui ont été tout simplement créés par des personnes et qui n'ont pas été commercialisés, qui sont peut-être en vue d'être commercialisés, mais qui sont simplement là pour être faits pour jouer avec des potes tranquillement. Pourquoi les gens créent des JDR homebrew ? Ce serait la même chose de pourquoi est-ce que les gens écrivent des livres ? Tout simplement parce qu'il y a plein de raisons différentes. Personnellement, dans mon expérience de release, on va dire que j'ai joué à 90% de jeux homebrew. J'ai rejoint une association qui parle de JDR maison. J'ai pu voir plusieurs petites raisons. On peut voir déjà des personnes qui veulent tout simplement créer des univers faits sur mesure et qui parlent faits sur mesure. On va retrouver ça notamment. Moi, j'ai vu ça notamment à travers Mac, qui est un jeu inspiré notamment des shonen et qui a été créé par une personne que je peux maintenant dire que c'est mon ami et qui du coup voulait tout simplement avoir un univers où on pouvait vraiment jouer des personnages comme il voulait et de ses propres paroles. Ce qui est bien avec le homebrew, c'est que c'est une feuille blanche que tu écris, dont tu écris l'histoire avec ses joueurs. Mag, on en est à la saison 3, et Mag, c'est trop trop bien. On peut aussi créer du JDR homebrew parce que on a envie de parler dans certains sujets qui n'est pas assez, selon nous, assez mis en avant dans notre société. Et on va notamment retrouver ça dans Kyros. Kyros, c'est un JDR assez particulier. C'est un JDR qui est très dur. C'est peut-être un des seuls JDR où, à la fin d'une campagne, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour une raison très simple. C'est que déjà, le MJ qui le fait, Fen, est un très très bon MJ. Coucou Fen, même si je sais que tu n'écoutes pas pour l'instant. Mais Kyros va nous mettre dans la peau dans un univers du coup urban punk, si je me trompe pas, qui nous met dans la peau du coup de policiers, tout simplement, dans un monde qui mélange à la fois fantasy et monde moderne, et on va évoluer dans une société qui sera profondément pourrie, et les policiers seront, on pourra jouer soit des policiers qui seront des policiers qui sont, on va dire, intègres, ou des policiers qui sont pourris. Spoiler alert, 9 fois sur 10, tous les joueurs finissent par devenir pourris. Et on va du coup parler de certaines problématiques de notre société à travers le jeu de rôle. Et il ne retrouvait pas ça dans d'autres JDR, il l'a fait lui-même, il l'a très bien fait. Et du coup, encore une fois, très bon JDR. On peut aussi en créer tout simplement parce que on a beaucoup d'idées et qu'on a l'impression de ne pas trouver tout simplement ce qu'on voudrait dans notre expérience de jeu de rôliste. Je pourrais parler de Terre de Feu qui a été écrit par Osk, tout ça c'est par Osk, qui est du coup un univers assez absurde, mais terriblement bien et qui s'articule autour dans Multivers, où je pourrais parler aussi de ma création, qui est du coup les Chroniques de Sicard, qui est du coup un monde qui est un monde nécropunk et que j'ai créé parce que j'avais envie de poser tout simplement ça sur le papier et que j'avais envie de faire découvrir mon univers à des amis. Certains univers que j'ai énoncé ont pour but d'être un jour édités. C'est le cas notamment, je pense, pour Kairos et pour les Chroniques des Sicards, mais aussi, je crois que c'est tout pour l'instant. Mais on peut aussi le créer tout simplement pour se taper une barre de rire ou pour tout simplement permettre d'intégrer en fait certains de nos amis dans cet univers qu'est l'univers de JDR. Et pour ça, j'ai deux univers qui me viennent en tête. J'ai Death & Co qui a été créé par ça et qui est un univers profondément absurde. Et on peut aussi parler de Holy Crap qui a été fait par moi, qui est du coup un système extrêmement simple d'horreur un peu absurde qui nous permet tout simplement en 5 minutes de créer une fiche et de pouvoir jouer avec nos amis rapidement. Autre raison pour laquelle on peut faire du homebrew, c'est tout simplement parce que en univers déjà existant, n'est pas adapté à ce qu'on veut faire. On trouve ça beaucoup, notamment dans Donjons et Dragons. Et je dis ça qu'on trouve ça dans Donjons et Dragons parce que une des séries extrêmement connues aujourd'hui qui parle de jeux de rôle est en univers Donjons et Dragons homebrew, qui est Vox Machina, créé par Matt Mercer. Il faut savoir que il y a une grosse partie de ce qu'il y a en fait dans l'univers de Vox Machina qui n'existe pas dans les règles de base. On va parler du gunner, on va parler de certaines sous-classes, on va parler de certains trucs. Et tout ça, pour moi, c'est une des plus grosses forces, je pense, du jeu de rôle. Parce que ça nous permet d'adapter, de créer et de s'amuser comme on le peut. Autre univers qui a été réadapté pour nous, pour les joueurs, parce que le système ne fonctionnait pas, c'est le système Game of Thrones, dans lequel je suis pour l'instant, qui a été fait extrêmement simplifié par Fen. Je parle de personnes que je connais, donc forcément c'est pas très très diversifié. Je suis dans une association où on est un peu plus, sur le serveur Discord, on est un peu plus de 300. Vous pouvez le rejoindre, c'est la taverne des rôlistes, on est gentil, on est bien. Il n'y a pas de partenariat, je précise juste. C'est juste que par moi, c'est un endroit qui m'a permis de redécouvrir le jeu de rôle et dans lequel je me sens bien. Et du coup, en fait, je pense que c'est important de tout simplement d'en parler. Mais il y en a plein d'autres sur Discord. Fouillez sur Discord, trouvez un endroit qui vous plaît, qui vous convient, dans lequel vous pouvez, en fait, tout simplement, être tout simplement vous-même et pouvoir être bien. Mais voilà, c'est peut-être ça le mot de la fin de cette chronique, qui est beaucoup plus personnelle que les autres, je m'en rends compte. C'est que personnellement, moi, le jeu de rôle m'a sauvé à une époque de ma vie, et c'est pour ça que j'ai envie de vous le faire connaître, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à vous en parler. Créez, lisez, démissionnez si vous voulez et recréez après par la suite, on s'en fiche, et profitez de toute façon, faites du jeu de rôle. Et si un jour vous voulez faire du jeu de rôle, moi sur Discord c'est Caro, vous m'envoyez un MP et on en discute. Sur ce, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin. Ah, il me reste encore un peu de temps. Je pourrais parler de quoi? Je crois qu'au niveau du homebrew, on a fait le tour. Hein. Dis-moi, Mel, est-ce que toi, Mel, t'as déjà fait du homebrew? Est-ce que ça te plaît?
Alors, j'ai jamais créé de homebrew. Quoi?
T'as une minute.
Ok, j'ai jamais créé de homebrew. Par contre, j'ai déjà joué à des univers homebrew, donc fait maison, notamment les tiens, JR.
C'est vrai.
Vu que c'est plus facile hein, quand on habite ensemble. Notamment Holy Crap, que j'aime particulièrement, parce qu'en fait, vu que ce sont des one-shot principalement, et qu'il y a très peu de campagnes, en fait, ça me permet de pas trop m'investir dans le JDR. Et c'est ça que j'aime, en fait, aussi dans les trucs maison. C'est que quand c'est pas des campagnes, tu peux t'investir de temps en temps et c'est cool, en fait. Et puis, ça change. Et puis, t'as aussi toute cette liberté créative. Holy Crap, franchement, moi, je le verrais bien édité.
Bah, Holy Crap, peut-être un jour, mais après, il y a aussi l'autre truc, c'est qu'avec le homebrew, et ce sera peut-être le mot de la fin, j'ai l'impression que toutes les créations homebrew sont beaucoup plus personnelles que ce qu'on a l'habitude de voir. Non pas que je critique les grosses licences, il y a plein de grosses licences que j'aime beaucoup, notamment Donjons et Dragons, même si je crache toujours dessus, Cthulhu ou autres, que je vous présenterai plus tard. Mais voilà. Le mot de la fin, c'est créer, amusez-vous. C'était Caro, 5e épisode Pop Flash. On est là encore longtemps. Enfin, en tout cas, on espère. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Mais leur mot de la fin.
Bonne soirée. J'espère que vous avez aimé et on est très content d'être là pour cette émission.
Des bisous tout le monde et à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know.
Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is.
This is what you asked for. It's the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in but it keeps bleeding.
Turn to run, now look what it's become. Out number 10 to 1, back then should have bit your tongue. 'Cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, so you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this.
This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down.
www.radio-g.fr